Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Anita Ekberg et Marcello Mastroianni dans la fontaine de Trevi. L'arrivée dans la ville par le chaos d'une autoroute de Fellini-Roma. L'Anna Magnani de Rome-Ville ouverte de Rossellini ou celle de Mamma Roma pour Pasolini. La bicyclette de Lamberto Maggiorani. La Vespa de Nanni Moretti dans Caro Diaro et celle de Gregory Peck et Audrey Hepburn dans Vacances romaines. Delon et Monica Vitti dans Le néant de l'éclipse. À nous tous, le cinéma aura fabriqué des souvenirs romains. Antique et moderne, saisie dans sa réalité ou réinventée, rêvée, fantasmée, Rome a été, et est encore, une source inépuisable d'inspiration pour les cinéastes. En 1991, dans les Mardis du cinéma, Francesca Isidori proposait un voyage dans les représentations cinématographiques de la capitale italienne en compagnie de Claude Aziza, Christian-Marc Bosseno, Claudio Fava, Jean-Antoine Gilli, Riccardo Freda et Ettore Scola.
Vienne, le plus fameux de tous les chemins qui mènent à Rome. Sur cette route marchent les légions victorieuses. Rome est le centre de l'Empire, la maîtresse incontestée du monde. Mais la puissance entraîne la corruption, nul n'est en sûreté. Chacun est à la merci de l'État. Le crime remplace la justice. Les chefs des nations soumises livrent à la servitude leurs sujets sans défense. Puissants ou misérables, tous deviennent les esclaves ou les otages de Rome. Nul ne peut échapper au fouet ou au glaive. Il semble inconcevable qu'une force quelconque puisse jamais ébranler les fondations de cette pyramide de despotisme et de corruption, de misère et d'esclavage.
Revêtue de la pourpre cardinalis ou drapée dans un péplum, grandiose avec ses temples en carton-pâte, ses coupoles baroques, ou misérable dans ses ruelles, ses cours que fouille la caméra néoréaliste, parlant latin dans le Satyricon ou l'argot cher à Pasolini, Rome dans le cri d'Anna Magnani ou dans la grimace de Petrolini Néron, Rome entre Dolce Vita et Bidonville, cynique, sceptique, féroce, majestueuse, toujours. Un ciel violet, le sourire d'une statue, le bruit d'une fontaine la nuit. Rome, dans ses perspectives illimitées, parsemée de ruines comme des ossements d'un géant disparu. Rome, qui dévore et rumine, ventre démesuré, jungle tiède. Rome, mère idéale parce que indifférente, qui vous accueille quand vous venez, et vous laisse aller quand vous partez.
On peut apercevoir Rome du sommet de la colline.
La voilà notre cité, Rome. 3 ans, c'est long, n'est-ce pas, Fabius ?
Oui, Marcus, c'est très long, en effet.
Rome au cinéma, avec Claude Aziza, Christian-Marc Bosseno, Claudio Fava, Riccardo Freda, Jean Gilli et Ettore Scola. Claude Aziza.
Le premier film sur l'Antiquité, qu'elle soit grecque, romaine ou égyptienne, s'appelle Néron essayant des poisons sur des esclaves. C'est une petite bande des productions Promio qui doit être de 97 à peu près, absolument invisible. Et donc le cinéma muet s'est intéressé à la reconstitution de Rome. La mode de l'époque, qui fait que les bandes sont extrêmement courtes, fait aussi qu'on n'hésite pas à reprendre sans arrêt le même sujet. Alors une des caractéristiques de ce cinéma muet italien concernant la romanité, c'est qu'en l'espace de 2-3 ans, non seulement des metteurs en scène différents refont le même sujet, mais le même metteur en scène refait lui-même le même sujet. On a par exemple ainsi 5 ou 6 Messalines, dont 2 au moins du grand metteur en scène muet qui est Enrico Guazzoni, qui est metteur en scène et peintre en même temps, et ce qui explique qu'il accorde beaucoup d'importance à la reconstitution topographique des intérieurs. Je crois que c'est le premier qui a été capable de discerner les possibilités de la profondeur de champ, par exemple. Et c'est vrai aussi que vers 1910, à peu près 1912, les bandes commencent à être assez longues. Et les premiers grands films muets sur l'Antiquité concernent Rome. C'est donc la Cabiria, par exemple, de Giovanni Pastrone, qui est un film immense et qui raconte la Seconde Guerre punique, au point d'ailleurs que Griffiths en a acheté une copie pour son intolérance et qu'il l'a regardée. Donc on peut dire que dès le début, Rome a été l'objet de maintes reconstitutions historiques. Reconstitution historique, d'ailleurs, qui ne se fonde pas forcément sur une fidélité topographique, mais plutôt sur l'image qu'on peut avoir dans les années 1900-1930 de la Rome antique. Alors, on a au cinéma une espèce de ce qu'on appelle le premier âge d'or du péplum, qui se termine d'ailleurs dans une espèce de course à la superproduction entre Américains et italien, et qui se termine à la fin des années 20, donc 25, 26, 27, avec deux échecs financiers qui sont énormes, qui sont d'un côté les derniers jours de Pompéi, du côté romain, et de l'autre côté le Bannure de Fred Niblo, du côté américain. Mais il est par exemple intéressant de constater que les derniers jours de Pompéi ont été adaptés 18 fois à l'écran, depuis les origines jusqu'au dernier téléfilm, et que c'est senti comme typiquement romain. En revanche, Bannure, lui, n'a été adapté que 3 fois, et par des Américains. Ce n'est pas senti comme romain. Covadis est entre les deux, il a été adapté 8 ou 9 fois, je crois, à la fois par des Américains et par des Italiens. Donc, non seulement ce cinéma muet sur Rome reflète les tendances de l'époque, mais encore, il reprend les grands romans du 19e, donc Covadis, Dernier jour de Pompéi, Fabiola aussi. Et il est à la fois l'héritier du cirque, de l'opéra aussi, du cirque dans les problèmes spectaculaires, par exemple, notamment la course de chars. Hein. La première grande course de chars, c'est justement dans la Messaline de Guazzoni, 1912. Et le goût du cirque et en même temps de l'opéra chez le public italien, fait qu'on retrouve cela au point même que, par exemple, la première Odyssée muette, qui date de 1910, je crois, est interprétée par les chanteurs de la Scala de Milan. Ce qui est quand même un paradoxe pour un film muet.
Qu'il me donne la victoire.
ne peut pas dire, comme on l'entend dire trop souvent, que le cinéma italien sur l'Antiquité a servi les ambitions politiques de Mussolini, par exemple. Ce n'est pas vrai.
De Mussolini, je vais vous raconter une autre anecdote qui, pour moi, c'est très amusant.
Riccardo Freda.
Mussolini avait très peu le don de l'humorisme. C'était un homme qui n'avait pas le sens de l'humour. Quand on a réalisé Scipione l'Africano, qui était un film de Gallone,
en 1937.
Oui. Et pour la première fois, étant donné les frais terribles qu'on devait soutenir pour réaliser les films, on a cru bon d'inviter Mussolini à des projections du matériel qu'on tournait. Parce que normalement, on ne l'invitait jamais, à part qu'il négligeait beaucoup ce côté du cinéma. Il n'entrait jamais dans les détails. Mais cette fois, pour Scipione, que c'était l'œuvre, ça devait être l'œuvre qui devait consacrer le cinéma italien à l'étranger, chose qui n'est pas arrivée parce que les films étaient navets. On l'a invité à avoir une projection privée au ministère, ça s'appelait le ministère de la culture, à Via Veneto, c'est au centre de Rome. Alors Mussolini, naturellement, avec tout le monde autour de lui, très cérémonieux, prêt à se prosterner comme des tapis sous ses pieds, on a commencé la projection du matériel, c'était des roches. Et la chose drôle, qu'on n'a jamais compris pourquoi, c'est lui qui avait fait les robes des acteurs, avait mis sur la tête des Romains des casques, des drôles de casques. Des casques, oui, toujours en fer ou en préfond du fer, mais qui avait au centre de la tête, comme un petit ancré, vous savez, avec une seule plume, comme ça, qui donnait vraiment l'idée des petits ancrés avec la plume qui trempe dedans, non? Il était très moche à voir. Tandis que les Carthaginais étaient formidables avec des armures énormes comme ça, des casques avec des plumes, des trucs, des queues, des choses comme ça. Donnaient vraiment l'idée de grands guerriers. Alors tout s'est déroulé naturellement sous les yeux de tous ceux qui étaient là, avec Mussolini qui ne disait pas un mot. Et alors naturellement, la projection finit, ça durait à peu près une heure, vous savez, les rushs ne prennent pas tellement de temps. Alors, tout le monde s'est levé, tout le monde, quand ça arrive dans ces cas-là, il était prêt à se prosterner toujours devant Mussolini, qui les a regardés tous, y compris le directeur général de la scénographie, les ministres, tout ça, avec très sévèrement. Alors, les autres ne savaient pas pourquoi. Et finalement, on a osé lui demander, bon, mais Duce, qu'est-ce que vous pensez de la projection? Qu'est-ce que de scène? J'ai dit, lui a répondu très sec, j'ai tout compris. Ce sont les Carthaginois qui vont vaincre, qui vont gagner. Tout le monde est resté sidéré, naturellement, parce qu'il s'attendait à tout, hormis que ça. Et il avait raison. Les Romains étaient minables, des pauvres types.
To every several man, 75 drachmas! Moreover, he hath left you all his walks, his private arbors and new planted orchards on this side Tiber. He hath left them you and to your heirs forever. Common pleasures to walk abroad and recreate yourselves. Here was a Caesar. When comes such another?
Never, never!
L'essor des films sur Rome et sur la romanité est donné par les Américains avec Le Covadis de Mervyn Leroy, 51-52, qui vient à Cinecittà parce que ça coûte moins cher. Et c'est à partir de ce Covadis que, de nouveau, est relancée la mode des films sur l'Antiquité romaine.
est relancée jusqu'aux années 60, parce que la deuxième grande vague du film Peplum, du film mythologique, c'était dans les années 60, avec beaucoup de films, on pourrait dire de série B, mais qui véhiculait un certain nombre de clichés sur l'antiquité romaine, mais des clichés qui marchaient bien auprès du public. Enfin, je ne sais pas, quand on pense à la vision de la Rome antique dans ces films, il y a toujours une vision d'une civilisation très corrompue, très décadente, à laquelle s'opposent les chrétiens qui sont honnêtes, purs. Enfin, c'est très manichéen, c'est une lecture de Tacite encore plus noire qu'on pourrait imaginer.
Vous avez absolument raison. Parce que, d'abord, le deuxième âge d'or du peplum, ça va donc jusqu'en 64-65. Mais à partir de 57, année après année, nous allons avoir des dizaines, voire des centaines de films tournés. Et évidemment, ils deviennent de moins en moins bons, bien sûr, puisqu'ils se recopient mutuellement les uns les autres. Et le genre s'arrête vers 64-65. Il reprend ensuite dans les années 80 avec alors, des péplums érotiques, dont le représentant le plus illustre est le Caligula de Tinto Brass. Et puis, il reprend d'une autre façon avec des téléfilms. Alors, je crois que la grande nouveauté de ces dernières années, c'est que autant Américains qu'Italiens tournent des téléfilms qui sont beaucoup plus intéressants au point de vue archéologique, reconstitution historique, que les films qui avaient pu être tournés auparavant. Mais pour revenir justement à ce regain pour l'Antiquité romaine des années 50-60, il faut quand même dire que ces films sont, au fond, beaucoup moins spectaculaires, paradoxalement, bien que les moyens soient souvent énormes. Ils sont beaucoup moins spectaculaires, ils sont beaucoup moins exacts et ils sont peut-être beaucoup plus fantasmatiques que les films de la période muette. Pour une raison très simple, c'est que la vision de Rome, puisqu'on parle de Rome, est toujours stéréotypée. Et ça, c'est intéressant. Mais non seulement la vision de Rome topographique, mais la vision de Rome politique et en même temps historique et psychologique. Car lorsque vous regardez un film sur Rome, que ce soit la Rome royale, que ce soit sur la Rome républicaine, ou que ce soit sur la Rome impériale, où il y a un maximum de films d'ailleurs, la reconstitution est toujours la même. Et cette reconstitution, elle se fonde tout simplement sur la maquette de la Rome de Constantin. C'est-à-dire qu'on a ce paradoxe qui est que, en général, lorsqu'on tourne un film qui est censé se passer, mettons, 500-600 avant Jésus-Christ, on se sert d'une maquette qui représente l'état de la ville dans les années 300. Donc, c'est comme si, maintenant, on tournait un film sur Paris, qui est censé se passer à l'époque de Notre-Dame de Paris, et que les décors dont on se servait étaient les décors du Paris de l'an 2000, avec la Défense, etc. Ceci pour dire que ce serait un tollé général. Mais dans l'esprit du spectateur, Rome, c'est intéressant, même au point de vue topographique, Rome c'est un tout, et on ne fait pas de différence entre se promener dans la Rome de Coriolan, mettant de 500 avant Jésus-Christ, 600, et de se promener dans la Rome de Constantin, qui est de 300 après. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Salut, Marcus Vinicius, au nom béni du divin Néron, prince et empereur, souverain pontife.
Salut.
Et moi, Flavius, je t'apporte le salut de la garde prétorienne. La nouvelle de tes brillantes victoires t'a précédé à Rome, Marcus Vinicius.
Nous avons hâte d'y arriver, les hommes et moi. Conduis-nous.
Je regrette, Marcus, j'ai reçu des ordres. L'empereur les a signés.
Par Jupiter. En voilà une réception après 3 ans de campagne. On nous enjoint de faire halte et de camper ici jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Et ça peut durer combien de temps?
Je ne connais que la consigne, Marcus.
Rome récompense bien ses héros.
Donne 10 coups de fouet à ce soldat.
Sors des rangs.
Et le double à ceux qui ne sont pas satisfaits. Fais établir le camp ici. Écartez-vous.
Où vas-tu, Marcus?
Au palais, où veux-tu que j'aille? Écartez-vous. Allez.
Jean Gilly.
On peut dire que la présence, notamment à Rome, d'une très importante richesse archéologique n'a pas été directement utilisée par le cinéma, mais a quand même été extrêmement utile parce que à partir de ces éléments, on savait quelle allure avaient les monuments quand ils étaient neufs. On pouvait s'inspirer des restes pour reconstruire, pour redessiner ce qu'étaient les monuments neufs, et donc ne pas avoir une reconstitution qui soit totalement une reconstitution de fantaisie, mais au contraire une reconstitution très documentée. Et il est probable que le succès des films italiens pendant les années 10, à partir de Cabiria et des films qui ont été tournés après Cabiria, il est probable que ces films plaisaient non seulement aux Italiens mais aussi à l'étranger, parce qu'ils devaient donner le sentiment que autrefois ce devait être comme ça, quoi. Parce qu'il y avait une documentation qui provenait directement de la présence sur place, non seulement des ruines mais aussi de spécialistes de ces civilisations.
On avait tout à la portée de la main.
On avait tout à la portée de la main, c'est vrai. On avait les peintures de Pompéi qui permettaient de se faire une idée très précise de ce qu'étaient les costumes, de ce qu'étaient les éléments de la vie quotidienne. Donc on avait une iconographie qui ne faisait pas appel à l'imagination, mais qui permettait aux décorateurs et aux costumiers de s'appuyer sur des sources de première main, quoi. Et on est souvent frappé d'ailleurs quand on voit ces films, en dehors même de leur qualité. Par exemple, certains films des années 20, le genre est un peu en train de s'épuiser, il n'y a plus beaucoup d'imagination dans l'art de conduire le récit. Mais par contre, tout ce qui est nombre de figurants, mise en place des foules, représentation des personnages principaux, tout ça est remarquablement fait. Ces films, incontestablement, ont hérité d'une tradition qui est en place depuis une quinzaine d'années et qui aboutit à des films plastiquement impeccables.
Et puis il y avait des têtes de Romains.
Il y avait des têtes de Romains, c'est vrai. C'est vrai aussi que c'est parfois le reproche que l'on fait aux films historiques de donner aux personnages des têtes contemporaines, dont on reconnaît tout de suite qu'elles sont contemporaines. À Rome, les descendants des anciens Romains sont là, et c'est vrai que l'on pouvait plus facilement, en recrutant la figuration, trouver des têtes, trouver des visages, trouver des corps, trouver des allures, et qui n'étaient probablement pas très éloignées de ce qu'étaient leurs ancêtres 1000 ans plus tôt, quoi.
Et qui portait le peplum avec beaucoup d'aisance.
Oui, on dit que les Romains, effectivement, à une époque, ça s'est reproduit encore dans les années 50, quand il y a eu une nouvelle vague de peplum. C'est vrai que les gens du peuple, notamment les gens de Trastevere, qui arrondissaient leur fin de mois en faisant de la figuration dans ces films de reconstitution, où ils n'étaient pas très bien payés parce que ce n'étaient pas des films à gros budget. Mais c'est vrai que ces gens avaient une certaine familiarité, une certaine aisance, qui procédait aussi peut-être de ce qu'ils faisaient souvent les figurants et qu'ils jouaient souvent dans ce type de costume. Mais ça a toujours été une caractéristique du cinéma italien, c'est que même dans les mouvements de foule, on n'a pas le sentiment que l'on éprouve parfois en voyant des films d'autres origines, que ces gens sont empruntés, qu'ils sont mal à l'aise, que ce sont des costumes qu'ils supportent mal. Là, au contraire, on dirait qu'ils avaient porté cela toute leur vie.
Est-ce que ce n'est pas lui qui est venu voir Néron hier?
L'arrogance en personne, il faut le surveiller.
D'après ce que j'entends, il mériterait même d'être surveillé de très près.
Popé, qu'est-ce que tu marmonnes? Approche-toi. Regarde, ils défilent comme ils se battent. Fort, brave, résolu. Nos enfants invincibles. Ils méritent qu'on les presse sur nos poitrines.
Oui, monseigneur.
On ne sait pas qu'est-ce que c'était Rome, en effet. On n'a pas l'idée. Par exemple, on n'a plus jamais, ou presque jamais, on est arrivé à donner la grandiosité de Rome. Ce qu'était, par exemple, vous savez, le Palatino, les palais des empereurs. On n'a jamais pu donner. C'était une chose, la folie totale. C'était une ville dans la ville. On n'a jamais pu rendre ça. On avait toujours les mêmes histoires, les banquets, les orgies, les scènes des jardins, comme ça. Mais au contraire, c'était une ville dans la ville. C'était une ville d'une richesse, d'une faste incroyable, où vivait cette secte, si vous voulez, des empereurs, totalement éloignée du reste de la ville et du peuple. Alors ça, on n'a jamais fait un film pour voir qu'est-ce que c'était vraiment un empereur romain. C'était une chose, c'était vraiment Dieu en terre.
Mais quand vous avez tourné Spartacus, alors vous avez tourné à Vérone, dans les arènes, parce que c'était mieux conservé que le Colisée. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté pour recréer Rome dans une autre ville ?
Aucune, parce qu'il faut dire, à part la coopération que j'ai eue là-bas. Pour vous donner un exemple, la scène principale de Spartacus, ça se déroule dans l'arène, non, où il y a. Il fallait avant tout mettre de l'eau dans l'arène pour une hauteur d'au moins 60 ou 70 cm. Et sur cette eau était fabriqué un bateau, un vaisseau de l'époque, ce qu'on appelait un trirème. Alors à Rome c'était impossible parce qu'on n'a aucune possibilité de mettre de l'eau dans le Colisée parce qu'il n'y a pas une plateforme sur laquelle. Vous savez, le Colisée c'est complètement ouvert, éventré. Alors, à Vérone, il y avait cette possibilité. Alors, nous a donné le permis de mettre l'eau pour 60 cm d'eau, de bâtir un bateau au milieu de l'art, toutes ces choses-là. À Rome, c'était impossible. Déjà, il y a, pour vous expliquer, il y a des questions secondaires, mais qui deviennent fondamentales. Alors, il n'y avait aucune autre possibilité que de tourner là-bas, ou à Vérone, ou à Pola, où j'ai tourné il y a une là. Ici, en arène, j'ai tourné des scènes, des autres metteurs en scène, pas des films à moi. Ils m'ont réclamé seulement pour tourner les scènes à grand spectacle.
C'est-à-dire que d'autres réalisateurs faisaient appel à vous pour des scènes à grand spectacle dans les films historiques.
Pas les réalisateurs, c'était les producteurs.
Les producteurs, parce que vous étiez particulièrement coté, doué.
Le meilleur metteur en scène italien, ça, il n'y a pas d'autre question. Alors pour ce genre de films, surtout pour la rapidité effrayante avec laquelle j'ai tourné, alors, et j'ai gagné des fortunes, vraiment. Il me faisait payer des chiffres énormes. Mais il préférait comme ça que non. Il savait que le metteur en scène qu'il avait choisi n'était pas en gré de tourner ce genre de scène.
Combien coûtait un film comme ça, comme Spartacus par exemple?
Très peu, à cause de la rapidité. Alors, vous savez, ça veut dire beaucoup. Si vous arrivez dans un jour seulement à tourner par exemple toute la scène d'un cirque, ça fait une différence de quelques centaines de millions. Alors on peut payer bien et mettre en scène 10 millions ou 20 millions plus qu'un autre à l'époque.
Les Américains n'ont pas voulu, et c'est ça, c'est très amusant, les Américains n'ont pas voulu tomber dans cette espèce de fausse reconstitution historique. Alors, ils s'entourent de conseillers historiques. Alors, on peut prendre deux exemples pour montrer jusqu'où ça peut aller. Le premier exemple, c'est la Cléopâtre de Mankiewicz, qui date de 64. Tout le monde se souvient de l'entrée de Cléopâtre dans le Forum. Bon. Alors, historiquement, c'est faux. Cléopâtre est venue à Rome, elle est venue en visite privée voir César. Elle est repartie au moment où César venait d'être assassiné, en 44, avant Jésus-Christ. Il est vraisemblable, et certainement vrai historiquement, qu'elle n'est jamais entrée dans Rome, dans le Forum, avec ce luxe de décor, etc. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que pour reconstituer ce Forum, on a fait appel donc à des archéologues. Or, le Forum républicain, vous le savez, est un forum tout petit, étroit, et dans l'esprit du public américain, d'ailleurs, le forum, c'est un lieu immense. Résultat, le forum reconstitué dans la Cléopâtre, qui est un forum républicain, est un forum beaucoup plus grand que nature. Simplement parce que le fantasme ne correspond pas à la réalité historique et qu'on donne du fantasme aux spectateurs. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, toujours avec le forum, c'est celui de la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, qui est pratiquement de la même année, 64. C'est les deux derniers grands films sur l'Antiquité, 64. Américain. Et dans la chute de l'Empire romain, Anthony Mann a eu comme conseiller historique un historien qui a écrit une histoire de l'humanité qui s'appelle Will Durant, un historien américain. Donc il a reconstitué exactement le forum à la mort de Marc Aurèle, si vous voulez, sous le règne de Commode, donc à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Mais, poussé par un souci lui aussi, donc un grand forum, puisqu'il est grand hein, au IIe siècle le forum, mais poussé par un souci d'amasser sur ce forum énormément de monuments, il a ajouté, quand on regarde bien la chute de l'Empire romain, on s'en aperçoit, il a ajouté un arc de triomphe de Septime Sévère, qui est postérieur au règne de Commode. Donc, il a, involontairement j'imagine, on a fait un anachronisme parce qu'on voulait le faire encore beaucoup plus beau que nature, le forum, et on lui a rajouté des monuments qui n'existent pas à l'époque longtemps. Finalement, au bout de 2000 ans, le fantasme n'est-il pas plus fort que la vérité historique dans la mesure où, au fond, qu'est-ce que la vérité historique? Et puis, qu'est-ce qui reste de la Rome antique? Il reste de la Rome antique, à la fois ce qu'il y a dans des manuels, bien sûr, dans les versions latines, dans les termes latins, que le grand public ne lit pas forcément, mais surtout ce qu'il y a dans la tête des gens. Et j'imagine que si, dans 2000 ans, on n'avait plus aucun livre d'histoire, ni aucun livre de latin, et que si on avait comme reconstitution ou comme document historique que les films péplum, on se dirait sans aucun problème, la Rome antique, c'était cela.
Silence aux sphères, paix, astres scintillants, ouvrez-vous, voûte céleste qui m'abritez. J'attendais cet instant où je vois de l'Olympe la lumière dorée qui me peigne, car je fais partie des immortels. Oui, c'est moi, Néron, l'artiste maître du feu, dont les rêves vont enfin prendre forme. À la flamme, j'ai offert le passé, à toi, flamme ardente. Reçois notre Rome, accepte ce don, ô flamme. Consume-la, dévorante fournaise, brûle donc, antique Rome, brûle donc, brûle!
On trouve dans énormément de films se passant sous Néron l'idée qu'on est en pleine décadence, et que tout se passe en festin, en orgie, en monstruosité. C'est une idée historiquement complètement fausse. Car sous Néron, c'est-à-dire dans les années 60 après Jésus-Christ, l'Empire est à sa naissance. Il n'est pas du tout en pleine décadence. Donc c'est une idée historiquement fausse. On trouve sur les films concernant Messaline et Néron, par exemple, l'idée évidemment que tous ces gens-là ne vivent que dans l'orgie. Or, nous savons, les historiens l'ont déjà fait depuis longtemps, que Messaline n'était pas du tout celle que l'on pensait. Quand on a réhabilité cette petite impératrice qui était toute jeune et qui avait 16 ans ou 17 ans quand elle était impératrice et qui n'a pas été plus débauchée que les autres dames romaines de cette époque. D'ailleurs, la débauche n'a pas du tout le même sens à Rome que de nos jours. Et le paradoxe, mais ça c'est intéressant, c'est que ce cinéma qui véhicule des clichés du genre « les chrétiens sont dévorés par les lions hein, », on a pu dire en rigolant qu'à l'époque du cinéma muet, par exemple dans la péninsule, chaque lion avait son chrétien. Et chaque chrétien avait son lion. Je crois que c'est Nino Frank qui dit ça dans le cinéma dell'arte. Et donc, le paradoxe, c'est que ce cinéma véhicule des clichés du genre les chrétiens au lion et surtout du genre les orgies romanes. Mais que ce cinéma s'adresse au public familial et que lui qui se nourrit d'orgies, il ne peut pas les montrer à ce public car il n'y a pas genre plus chaste que le péplum. Résultat, c'est que finalement, l'orgie romaine, qui est un des temps forts du péplum, est en fait une espèce de goûter de famille, où l'on voit des tables avec des viandes à l'os et puis des fruits disposés sur la table, quelques danses qui sont les héritières de l'opéra, et que le reste est extrêmement chaste. Donc voilà un des paradoxes de ce cinéma populaire, qui, pour exciter l'imagination des spectateurs, au moins des spectateurs masculins, est bien obligé de se référer à des stéréotypes qui n'ont pas existé, du genre orgie romaine, mais qui, d'un autre côté, à cause de son public, ne peut pas les montrer. Et si le Spartacus de Freda a été censuré aussi, c'est pas parce qu'il y avait des séquences érotiques, car s'il y a effectivement un banquet dans le Spartacus de Freda, c'est un banquet où Lucullus, le fameux Lucullus, explique comment il faut manger la viande, par exemple, donc c'est une leçon de cuisine. Ce n'est pas parce qu'il y a des séquences violentes, mais c'est simplement parce que Rome est montrée sous un jour qu'en 1954, à l'époque ou 55, à l'époque du Spartacus, on ne pouvait pas accepter, même après la Seconde Guerre mondiale.
Cesare, Cesare, va prendre contro tutta Roma. Ti voglio uccidere. Tu sei responsabile dell'incendio.
Oh, io responsabile dell'incendio? No, sono assicurato con la fondiaria.
Cesare, persuadi il popolo con uno dei tuoi soliti discorsi.
Adesso affronterò il popolo. Che emozione affrontare la turba.
A morte!
Ignobile plebaglia, così ricompensate i sacrifici fatti per voi, ritiratevi, dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che prima.
No, grazie.
Les week-ends de Néron, ou bien Ok Néron, qui sont des productions italiennes des années de l'après-guerre, hein, et notamment le Ok Néron qui joue sur l'anachronisme, c'est-à-dire deux marins américains qui se trouvent transportés dans la Rome antique. Bon, c'est assez amusant. Et les week-ends de Néron, sur le mode parodique, Néron est présenté comme donc Alberto Sordi est présenté comme un petit enfant, enfin un jeune homme qui est sous la coupe de sa mère, Agrippine, joué par Gloria Swanson, l'actrice américaine, et en même temps, sous la coupe de Sénèque, son conseiller, le philosophe, hein, joué par Vittorio De Sica, mais qui est très amoureux de la petite Poppée, où l'on trouve dans un de ses premiers rôles, Brigitte Bardot. Et ce film est très amusant, car on voit sans arrêt Néron se plaindre auprès de Sénèque de la tyrannie de sa mère, et Sénèque, Vittorio De Sica, lever les bras au ciel en disant « Ah oui, mais la mamma, c'est la mamma, on n'y peut rien ». Et donc, il y a une espèce de reconstitution où Agrippine est la mamma italienne, et puis Néron est sous sa coupe, et il finira par la tuer. Et ça, je crois que les historiens sont tous d'accord là-dessus, c'est bien Néron qui a fait assassiner Agrippine. Donc, le personnage est prétexte à énormément de dérives caricaturales. Si vous voulez. Ça ne m'étonne pas du tout que le Néron de Blasetti soit tout à fait caricatural.
Le peuple fuit l'incendie. Ils ont franchi les portes.
Ils veulent sauver leur vie.
Qui leur a demandé de survivre? Tigellin!
Le palais est bien gardé, divinité. Ils seront refoulés par mes prétoriens.
La nuit est fraîche. Retirons-nous maintenant. Est-il possible que des êtres humains puissent émettre des sons si discordants?
Oui, lorsqu'on a tout fait pour les pousser à bout.
D'une certaine façon, le cinéma de l'époque fasciste a donné de Rome une vision un peu officielle. Bon, c'était la capitale du royaume, c'était le siège du fascisme, c'était là où Mussolini avait son pouvoir.
Jean Gilly.
Mais les images qu'en diffuse le cinéma sont finalement des images assez convenues, peu liées à la vivacité de la ville, peu liées notamment au parler dialectaux. Le romanesque s'entend très peu dans le cinéma italien de l'époque fasciste. Il faut dire d'ailleurs que la politique du fascisme était d'interdire les dialectes, et notamment dans les formes officielles de spectacle qu'était le théâtre ou le cinéma. Et il faut attendre des films d'Aldo Fabrizi des années 41-42, des films comme Campo dei Fiori, Avanti c'è posto, L'ultima carrozzella, où il joue d'ailleurs toujours des personnages d'hommes du peuple, un marchand de poissons dans un film, un conducteur de fiacre dans un autre, un conducteur d'autobus dans un troisième, où on a sinon vraiment du romanesque, du moins un parler italien avec des accentuations et des inflexions de la phrase qui nous font sentir que ça se passe à Rome et pas ailleurs. Et à l'occasion de ces films, on commence à avoir une certaine présentation de la ville Campo dei Fiori, c'est une place célèbre de la Rome ancienne. Par parenthèse, la place a d'ailleurs été reconstituée en studio. On n'a même pas tourné sur l'authentique Campo dei Fiori. On a reconstruit Campo dei Fiori à Cinecittà. Mais il n'empêche que même en le reconstruisant, on a bien été obligé de tenir compte de ce qu'était réellement ce lieu bien connu des Romains. Dans l'Ultima Carrozzella, l'écurie où le protagoniste du film, ce conducteur de fiacre, remise son cheval, se trouve à Trastevere. Et là, on a aussi la possibilité d'apercevoir un petit peu ce qu'est ce quartier populaire de Trastevere. Donc c'est plutôt par des traces, par des signes relativement limités que commence à paraître une Rome authentique dans les années 30 et au début des années 40. Et ça apparaît très tardivement, et ça annonce d'ailleurs ce qui va se passer à partir de 1945, ça apparaît tardivement, non pas dans n'importe quel film, mais dans des films qui sont déjà porteurs d'une nouvelle vision de l'Italie, et qui sont des films qui, d'une manière ou d'une autre, annoncent déjà un peu ce que sera le néo-réalisme.
Non sei tu.
Che miracolo vederti all'oratorio.
Ci sei venuto perché mi ci ha mandato mia mamma.
Fatto bene, farà bene anche a te.
Don Piero, fatemi finire da parlare. Dice, devo tornare subito a casa nostra. È una cosa importante.
Cosa?
Io non lo so, come ha fatto la misteriosa? Ma ci deve essere qualcuno a casa di Francesco.
Va bene, andiamo. Gilberto?
On sent qu'il y a à côté d'une ville centrale, d'une ville historique splendide, et commence à se mettre en place ces grands faubourgs qui se sont aujourd'hui développés sur des kilomètres et qui sont ces faubourgs sans âme, sans aucune caractéristique, sans aucune chaleur humaine, quoi. Par exemple, Quatre pas dans les nuages, où le film s'ouvre d'ailleurs sur le début de journée d'un représentant de commerce, et on le voit se lever, préparer son petit déjeuner dans un appartement particulièrement médiocre, quelconque. Il sort dans la rue et on voit qu'on est dans un quartier périphérique de Rome, avec ces grands immeubles qui sont un peu les HLM de l'époque, quoi. Donc il y avait cette aspiration à, sinon à descendre dans les rues, qui sera le grand motif du néo-réalisme, mais en tout cas à faire un plus large appel au décor naturel, et aux vraies constructions, aux vraies maisons. Alors cela impliquait bien sûr l'abandon du cinéma de reconstitution historique, qui par définition se fait en studio, mais le retour vers un cinéma de la quotidienneté. Et ce cinéma de la quotidienneté va apparaître d'abord dans les films de Rossellini, qui sera en quelque sorte le cinéaste qui a lancé le néo-réalisme avec Rome ville ouverte, dans un film qui reste un film non pas exactement contemporain, puisque ce qu'il raconte dans le film, c'est ce qui s'est passé à Rome quelques mois plus tôt. Et comme il raconte une histoire de résistance qui se déroule dans un certain nombre de lieux de la ville, pour l'essentiel, il tourne son film dans les rues de la ville, dans le quartier de San Lorenzo, où se trouve la paroisse du prêtre qui est le protagoniste du film, dans le quartier de Place d'Espagne, dont on voit les terrasses au-dessus des immeubles par où s'échappe l'ingénieur poursuivi par la Gestapo. On y voit les petites rues dans lesquelles les résistants se retrouvent. On y voit le quartier populaire où habite Anna Magnani et l'immeuble collectif dans lequel elle habite, et la rafle organisée par les Allemands qui veulent s'emparer des garçons et des hommes qui se réfugient dans cet immeuble. Donc la ville, tout d'un coup, devient le protagoniste de l'histoire. Je crois que la grande différence, si l'on prend le cinéma italien d'avant 45 et le cinéma italien d'après 45, avant, dans la meilleure des hypothèses, la ville est un cadre. L'histoire s'y déroule, il y a quelques signes qui nous permettent de savoir où l'on est, mais elle n'a pas un rôle déterminant. Le plus souvent, cette histoire se déroule à Rome, mais elle pourrait se dérouler ailleurs, ça ne changerait rien au récit, rien à la nature de l'intrigue. Par contre, à partir de 1945, ce sera d'ailleurs pas vrai uniquement pour Rome, mais la ville devient un personnage du film. On ne peut plus concevoir l'histoire avec un autre cadre. Et dans Rome ville ouverte, on a vraiment ce sentiment, la lutte entre les Allemands et la résistance, l'organisation de certains ecclésiastiques qui profitent aussi de ce que les églises sont traditionnellement des lieux protégées dans lesquelles l'intervention allemande ne pouvait pas s'exercer aussi facilement qu'ailleurs. Donc le cadre de la ville, les rues, les églises, les immeubles, tout ceci devient partie prenante du récit, quoi. Donc il y a en quelque sorte l'arrivée brutale, l'intrusion brutale de lieux qui jusque-là étaient un petit peu en marge du cinéma.
Et en plus, il y a vraiment un renversement d'image, parce que de la Rome conquérante, on passe à une Rome résistante, à une Rome occupée et conquise.
Oui, une Rome conquise, une Rome profanée, une ville qui est une ville qui subit la présence allemande, et qui va d'ailleurs subir... Évidemment, le mot ne convient peut-être pas vraiment, mais c'est un peu aussi de cela qu'il s'agit. La libération ne sera pas pour autant l'exaltation de la ville. La libération va amener le marché noir, va amener tous les trafics plus ou moins avouables, va amener le développement de la prostitution, et non plus la prostitution ancienne de maisons closes, mais au contraire une prostitution plus ouverte et plus diffusée dans la population. Donc la présence de forces étrangères, que ce soit l'occupant allemand ou que ce soit le libérateur américain, est un peu un outrage pour la ville qui tarde à retrouver sa vraie nature. Et le néoréalisme va aussi parler de ça, va aussi montrer ça. Et là encore, on peut citer Rossellini avec Païsa. Païsa est un film qui se déroule dans 6 lieux différents de l'Italie, puisqu'il y a 6 épisodes. Mais un épisode central est situé à Rome et montre précisément comment un soldat américain tombe amoureux d'une jeune fille, puis la guerre l'oblige à partir, et lorsque quelques mois plus tard il revient à Rome et qu'il essaie de retrouver cette jeune fille qui est restée pour lui une espèce d'amour idéal, il la retrouve, elle est devenue prostituée, parce que la misère, le contexte de l'immédiate après-guerre a conduit un certain nombre d'individus à se fourvoyer dans les trafics, dans le marché noir, dans la prostitution, enfin dans toutes ces calamités qui s'abattent dans une ville où une population pauvre est mise au contact d'un occupant riche. C'est Saïgon, si vous voulez. C'est Saïgon occupé par les Américains, quoi. C'est une ville où il y a trop de distance entre la pauvreté des indigènes, des autochtones, et la richesse, au contraire, de l'armée d'occupation, quoi. Alors évidemment, ce n'est plus une armée conquérante, ce n'est plus une armée qui arrête, qui torture, comme pouvaient le faire les Allemands, mais c'est une armée dont la présence est de toute manière quelque chose de très négatif pour la ville.
Je me souviens d'un film où Alberto Sordi est le garçon romain qui essaye d'imiter les Américains. Un américain à Rome, et qui fait semblant de détester les spaghettis et de manger plutôt du lait et des yaourts.
C'est effectivement cette américanisation, la présence américaine va provoquer, de par la présence des Américains eux-mêmes, de par la diffusion du cinéma américain en Italie, de par la diffusion des modèles culturels que véhicule le cinéma américain, va, notamment sur la jeunesse, qui est toujours avide de modes nouvelles, va avoir une influence assez curieuse, et Sordi a très bien su capturer ce moment en montrant à quel point on pouvait devenir l'esclave de ces modèles américains.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, anche indietro, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Hai visto come senti? Ci vedi la mano?
No, perché?
Facile, ci sono i numeri, coraggio. Col sinistro, 1. due, tre, uno, due, tre.
Ma
uno,
scusate.
Due, tre. Vedrà, due, tre.
Ma che stiamo facendo?
La rumba!
Ah, la rumba!
Belle bimbe in
mano! Ma vi pare? Mia figlia è quella grande, lei sì che sa ballare. Ma io alla mia età.
Profumo d'amore.
Io ho sognato.
Ah, mi sono ispirate le calze, messe nuove nuove stamattina.
Ma lei m'ha abbandonato. Perché? Triste perché.
Su, proviamo, via. Su che è facile. Con il sinistro bimbe innamorate, gli aranci con frate, hanno un magico sapore.
E voi ci andate spesso a ballare?
Mai!
E allora perché vi state imparando la rumba?
Così. Questo è meno ballabile.
E adesso scappo. Tengo certa roba sul fuoco. Grazie, tanto piacere di avervi conosciuto.
Mi chiamo Gabriele.
Ah già, non ci siamo neanche presentati. Piacere, Antonietta Di Bene.
È un bel nome.
Ettore Scola.
Je ne suis né à Trévis, un petit pays du sud, où mon père était médecin de campagne. Mais quand j'avais 4 ans, il s'est déplacé à Rome, et donc je suis pratiquement né à 4 ans à Rome. Et oui, Rome a été le grand plateau où on a tourné tous les films, la plupart du néoréalisme. Mais il y a aussi ces caractères romains qui sont entrés de quelque façon dans le cinéma, notamment dans la comédie à l'italienne, qui c'est une comédie dialectale et qui se nourrit pas mal du caractère romain, avec ses vertus, avec ses vices, avec ses défauts aussi.
Et je pense à certains de vos films, par exemple au bidonville de Drame de la jalousie ou d'Affreux, ouais. Sale et méchant, ou au quartier bourgeois des Prati dans La famille, ou encore, et c'est plus étonnant, dans Une journée particulière, où vous arrivez à parler d'une ville sans la montrer. Et c'est un exploit extraordinaire. Comment ? Parce que Rome est là, dans ce film. Ouais. Alors, comment vous arrivez ?
Mais déjà, le bâtiment était un bâtiment fasciste qui Mussolini en personne était allé l'inaugurer comme œuvre du régime. Et c'est un immense bâtiment avec plusieurs escaliers. Et donc déjà, l'image là, c'était une façon de grouper les gens, pas tellement neutre. En plus, Rome est toujours présent dans le film à travers la radio, car dans le même moment, quand il y a un petit rencontre entre une femme servante de son mari et un petit homosexuel, il y a un grand rencontre de deux dictateurs qui décident le destin de l'Europe. Et donc la ville entre dans cette maison à travers. Et puis oui, il y a toujours cette puissance de Rome de n'être jamais anonyme.
Vous avez dit une fois dans une interview que Rome est une ville qui vous intrigue plus que tout autre.
Oui, car je la connais. Je pense qu'il faut connaître avant de représenter quelque chose, et Rome est la ville que je connais mieux. Mais j'ai tourné ailleurs aussi souvent. J'ai tourné à Chicago, j'ai tourné à Paris, j'ai tourné en Afrique. Mais quand on tourne en Afrique, on peut aussi oublier l'Afrique. À Rome est plus difficile, ça. À Rome beaucoup plus prépotente.
Elle s'impose
avec force.
Ouais. Oh, pazienza, vedremo di sistemare tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Arì, c'è il posto.
Il posto?
A tacchino. Te la presenta al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porta il libretto.
C'è niente per noi.
Mannaggia la miseria, oh.
E qua? Per noi.
Ci sono due posti per tornitori, ma qui tornitori non ce ne stanno.
E se io non sono tornitore devo seguire a sta qui a fare la muffa.
Oh, e che te vuoi sfogare con me? Arì, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è sta scritto pure lì, no?
La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no? La posso avere fra un po' di giorni?
No, ce l'ho subito, se no non te vieno.
E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a piedi.
Parliamo se chiaro, Arì, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro.
Ce l'ho io la bicicletta.
E che ce l'ha solo tu la bicicletta?
Ce l'ho pure io.
Ma tu sei muratore, sei di un'altra categoria.
E cambia la categoria.
Ma non se può. Allora, Ricci, sta bicicletta, c'è sta o non c'è sta?
C'è sta. Stamattina mi presento.
Oh, non fa ma coglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare.
E che sta
aspettando? C'è un son di classe a Roma, già vecchia, tra, e le abite a via Galilei, che è tu prede piazza Vittorio, chaque jour pour aller à l'école au lycée, deve passer par piazza Vittorio, che è la più grande place de Rome, e lì a tu, lì a dei gran bâtiments, lì a
des arcades,
les arcades de galerie, e je crois qu'il habite presque 2000 habitants là, e poi lì a marché au centre, poi au centre du marché lì a un villa, au centre della villa lì a des ruines romaines, et donc c'est vraiment un microcosme. Et qui, un jour, je connaissais très bien, mais un jour, il a changé tout, comme le cinéma arrive à changer tout, qu'il a été occupé, présidié, comme dans une guerre, par une troupe de cinéma, avec beaucoup de tours pour les lumières, et les caméras, et puis ce grand monsieur avec un grand manteau de chamois, avec une grande écharpe, qui était tout à fait fascinant, qui parlait dans un microphone, et c'était comme un dieu qui dirigeait la création du monde. C'était pas la création du monde, mais c'était la création d'un film, la création d'une scène, et un spectacle vraiment, pour moi, inconnu, un spectacle ravissant, marquant. Et donc, je suis resté là tout le jour. Je ne suis pas retourné par l'école, pas à la maison à manger. Je suis resté là jusqu'à quand, vers 8h du soir. On a tout débarrassé. La place est retournée comme elle était avant l'arrivée du cinéma.
Et ce grand monsieur était Vittorio De Sica.
Le grand monsieur était Vittorio De Sica. La scène, c'était celle des balayeurs qui aident à chercher la bicyclette. Et la scène que j'ai revue dans le film. Et j'ai revu les gestes que De Sica montrait, car il montrait les gestes même aux figurants. À chaque figurant, il allait près de lui et lui disait comment il devait bouger ou rester immobile. Et il montrait tout, car il était comédien avant tout.
Prima gli dai una mano de gola. Così. Poi ci schiaffi il manifesto. Ecco qua. Poi un'altra mano de colla, leggera, leggera, in maniera che il manifesto viene stirato e senza grinze. Hai capito? Eh? Ah, ragazzi, perché se ce lasci qualche grinza, l'ispettore se ne accorge e te mette la multa. Hai capito? Vedi, Ricci, per far sto mestiere ci vuole molta intelligenza. Ci vuole occhio e sbatti. Ecco qua. Andiamo. Se vede, Marì, te saluto.
Grazie. Ciao. Buongiorno.
Al ladro! Che ti è successo?
Le voleur de bicyclette repose sur une trame d'une très grande simplicité. C'est un ouvrier qui est colleur d'affiche et dont l'outil de travail est la bicyclette, puisqu'elle lui permet de se déplacer d'un panneau à l'autre pour aller apposer les affiches. Cette bicyclette lui est volée. Sans bicyclette, il est au chômage et il va errer dans la ville en compagnie de son jeune fils, à la recherche de cette bicyclette, à la recherche éventuellement des traces du voleur qu'il a aperçu au moment où la bicyclette lui était enlevée. Et on va suivre, dans le fond, le film est une sorte de road movie avant la lettre, c'est-à-dire de déplacement dans la ville de l'homme et de son fils. Et quand on connaît bien Rome, on s'aperçoit que De Sica a été particulièrement attentif à respecter des itinéraires qui soient des itinéraires réels. C'est-à-dire à l'inverse de ce qui se fait généralement dans le cinéma, où on peut, en tournant un angle de rue, se retrouver en réalité dans un quartier qui est 2 kilomètres à côté de celui où avait commencé le plan, où l'on fait une sorte de collage des lieux d'une ville pour créer une sorte de ville qui est irréelle, même si tout est authentique dans chacune des images prises individuellement. De Sica, au contraire, par exemple, on est Piazza Vittorio, une grande place commerçante à proximité de la gare de Termini, et Piazza Vittorio, il y avait à l'époque un grand marché de vente de... C'est-à-dire, il y a le marché de fruits et légumes, mais il y avait aussi quelque chose qui aujourd'hui a disparu, qui était un marché de bicyclettes. C'est-à-dire, il y avait là toute une série de vendeurs qui vendaient à la fois des bicyclettes, mais aussi des pièces détachées, qui assuraient la réparation des pneus crevés. Enfin, il y avait là tout un commerce qui correspondait à une société où la bicyclette, par manque de moyens, on n'en était pas encore ni aux scooters et encore moins aux voitures, donc une société pour laquelle un des moyens de locomotion les plus traditionnels était la bicyclette. Donc il vient d'abord là pour vérifier s'il n'aperçoit pas le cadre de sa bicyclette qui a été démontée, et ensuite il va à Porta Portese. Et le déplacement est parfaitement fait, c'est-à-dire qu'on pourrait quasiment, avec un plan, suivre les parcours de cet homme pendant la journée du dimanche. Et on s'apercevrait que la mise en place des différents points de tournage correspond à des itinéraires bien précis et n'est pas une fantaisie de metteur en scène qui décide d'aller là parce que c'est joli ou d'aller ailleurs parce que c'est moins bien. Et aussi bien ensuite la recherche de la bicyclette près du stade, le repas qui est pris à Trastevere, la réception par les gens d'église dans une église à proximité du Tibre. Tout ceci nous permet de circuler dans la ville, dans différents lieux, de la découvrir au passage dans ces différents quartiers, les bords du Tibre, les lieux qui ont l'air plus aisés, les lieux au contraire qui sont misérables, et notamment toute la séquence qui se déroule à Trastevere. À mon sens, c'est le premier film dans lequel on voit aussi bien Trastevere, on voit parfaitement les petites rues, on voit très bien le mode de fonctionnement de la ville, comment les gens se connaissent tous parce que d'une fenêtre à l'autre on s'aperçoit, et comment même ce quartier fonctionne comme un lieu protecteur qui, sans même s'être concerté, défend, protège le voleur de la bicyclette, afin que notre protecteur ne parviennent jamais à remettre la main sur son bien, même quand il retrouve effectivement le voleur qui, un petit peu plus tôt, s'était emparé de la bicyclette.
Il y a évidemment la Rome de Rossellini, il y a des moments de Rome città aperta, Rome ville ouverte, qui est la vieille Rome.
Claudio Fava.
Et puis il y a la Rome des faubourgs, des nouveaux faubourgs minables, vaguement latino-américains, des années 60, ou qui a déjà changé totalement maintenant, où Pasolini a tourné ses premiers films, Rome épouvantable et triste. Et puis, qu'est-ce que je peux penser encore? Je peux penser milliers, parce que c'est tellement... Il faudrait avoir vous savez, un livre photographique cinéma italien, et dire, voilà, un plan qui est particulièrement romain, mais ça sombre facilement dans la facilité, dans la rhétorique, parce que il y en a tellement vous savez, la Piazza d'Espagne des années 50 et la Roma de certains jeunes metteurs en scène d'aujourd'hui, la Roma de Nanni Moretti par exemple, est une ville où ne sont pas passés 40 ans mais 4 siècles.
Vous n'avez pas du tout cité la Rome de Fellini,
parce que la Rome de Fellini n'existe pas. Oui, enfin, je veux dire, elle existe dans les rêves de Fellini. Fellini ne fait que réinventer depuis 50 ans la Rome. Il est arrivé de sa région natale, qui est la Romagna. Et il continue à rester le lycéen qui est parti de chez lui comme le Moraldo de Vitelloni et qui est arrivé à Rome. Donc, il aime profondément cette ville, qui est aussi un prétexte baroque pour ses films, mais c'est quand même l'œil de l'immigré de luxe. Et d'un côté, il regarde la Nouvelle Rome avec un œil épouvanté, si vous pensez à Gingerfred, la gare Termini, n'est-ce pas, qui est devenue une sorte de zoo, c'est vrai, entre parenthèses, c'est vrai, je veux dire, qui regarde. Et d'autre côté, c'est une ville où il place toujours ses rêves du lycéen de Provence, une province du Nord. Donc, la fascination du provincial du Nord pour cette ville apparemment facile. Cette ville où tout semble facile et tout, en réalité, est terriblement difficile. Parce que, on vous dit tout le temps, il faut qu'on se voit, on va dîner, on va bouffer ensemble. C'est pas vrai, on se revoit plus. Vous comprenez, c'est une ville où tout le monde vous donne des rendez-vous et on sait déjà que personne viendra parce que ça sera inutile. Il a tourné un film très beau qui s'appelle Rome. En réalité, il ne le sait pas, je crois, mais dans ce film, il y a une haine profonde pour la ville. Parce que, description des Romains qui bouffent, par exemple, dans des restaurants populaires, la Festa de Noan, des choses comme ça, qui sont vus avec un œil presque d'ethnologue.
Ma dopo tutto bene cavoli va a me, è una bugia che è sciuta un dopo nata a te. Si me volisse bene,
salute,
bevi, non mi metti sta colla in doca, non mi puoi stare.
Christian Marc Bosseno.
Il y a une très belle phrase de Fellini qu'il avait, c'est une déclaration qu'il avait fait à l'époque de la sortie de Roma, à propos de la ville Rome. Il y a des villes masculines et des villes féminines. Rome est féminine, c'est une femme splendide, ou plutôt c'est une série de femmes. Il y a en elle à la fois l'aspect de la mère et celui de l'amante. Tantôt elle est fraîche comme un enfant, tantôt sombre, torve, grincheuse, imprenable, indéfinissable, irritante, languide. Une ville comme Rome possède tous les âges et tous les aspects à la fois. Et c'est vrai que chez Fellini, comme chez Pasolini, c'est toujours Mamma Roma et la figure de Rome comme ville, comme ventre et comme ville avant tout maternelle. Comme ville maternelle et tentatrice à la fois.
La prima immagine di Roma è stata questa. Un pietrone mangiato dal tempo che sorgeva in mezzo ai campi proprio all'uscita del paese. Più tardi, a scuola, noi ragazzi avemmo su Roma altre interessanti notizie.
Questo è il Rubicone. Il fiume che Giulio Cesare attraversò dicendo Alea Iacta Est. Toglietevi le scarpe.
Togliete le scarpe!
E attraversiamolo insieme. Alea Iacta Est. A Roma!
A Roma!
Et alors, et si on pense au film de Fellini, justement, à Rome, et c'est un film qui commence sur des souvenirs de Fellini, lycéen, enfin écolier plutôt, et donc c'est Rome vue à travers les études, à travers un peu l'iconographie, la rhétorique, je dirais, des études classiques. Il y a cette fameuse scène où le professeur amène les écoliers devant le Rubicon et...
Oui, je dirais ça, c'est la constitution de l'image de Rome. Fellini est très malin parce que avant de livrer sa vision de Rome, il met un peu en feuilleté toutes les différentes approches possibles de Rome dans le cadre scolaire, dans le cadre de l'histoire de l'art, etc. Et il reprend un peu tous les clichés romains, aussi bien à travers le cinéma, le péplum bien sûr, à travers les paroles du maître d'école, les projections de diapositives. Et en fait, c'est une reprise de quelque chose que les historiens ont bien étudié, qui est la constitution de l'image de Rome, dont on peut suivre en détail les évolutions depuis le XVIe siècle, et qui constitue l'image toujours paradoxale d'une ville morte, d'une ville musée, d'une ville organisée en strates, en sédimentation, mais en même temps d'une ville paradoxalement vivante, qui est à la fois ville disparue, ville réémergent, mais une ville vivante avec, bon, là on pourrait parler de toute la comédie italienne des années 50, ville traversée par des Vespa et par des voitures hurlantes. C'est le grand paradoxe de Rome. Mais pour revenir sur l'aspect sédimentation, je crois que c'est Julien Gracq qui dit à un moment donné que Rome est toute allusion et alluvion. Alluvion parce que sédimentation, etc., dépôt successif de couches historiques, et allusion parce que chaque coin de rue, chaque lieu, chaque renvoie à un développement historique séculaire. Donc alluvion et allusion, c'est tout à fait ce qu'on retrouve chez Fellini. Mais chez Fellini, je crois que les choses vont plus loin, parce qu'on a beaucoup parlé de l'écriture spécifique de Fellini. Mais en fin de compte, je pense que la métaphore qui pourrait le mieux convenir à l'écriture de Fellini, c'est que ses films sont construits comme peut être construite une promenade dans Rome, c'est-à-dire... on passe là, on tombe sur une façade baroque qui recouvre une colonne ou un ensemble antique. Enfin, tout est imbriqué. C'est une ville sédimentée mais désordonnée. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'écriture de la plupart des films de Fellini. C'est une sorte de promenade, de divagation dans une mémoire individuelle et une mémoire collective, où on voit ressurgir tel épisode de 1943, tel épisode plus récent. Et c'est sans doute une des clés de lecture possibles de l'écriture de Fellini, les divagations d'un promeneur romain.
Il sottosuolo di Roma è imprevedibile. Ogni 100 metri ci sono importanti vestigia. Naturalmente ne risente. È un appalto molto difficile. Volevamo semplicemente risolvere una questione di traffico urbano, una metropolitana a scudo, come a Monaco, a Dublino, ma qui il sottosuolo ha 8 strati.
Fellini Satyricon, c'est moins une reconstitution qu'une recréation. Pour comprendre, me semble-t-il, hein, Fellini Satyricon, il faut moins se plonger dans Pétrone que dans le Fellini Roma, où Fellini raconte un peu quelle a été son enfance de latiniste, l'amour qu'il éprouvait pour l'Antiquité, à la fois au théâtre, hein, puisqu'il y a cette fameuse représentation avec cet acteur qui devait être un acteur célèbre dans les années 30, mais que je ne connais pas, qui joue une mort de Jules César. Et puis surtout au cinéma muet, où Fellini a reconstitué un péplum muet qui vraisemblablement est un des nombreux Covadis de l'époque, hein, en gros. Et à partir de là, on peut comprendre que Fellini ait voulu recréer la Rome antique dans le Satyricon. Alors, quel romantique? Eh ben, en gros, le Satyricon, c'est un roman qui se passe au 1er siècle de notre ère. Donc, on peut considérer que c'est la Rome de Néron. Mais si on veut, si on regarde la topographie et l'exactitude archéologique, on s'aperçoit que rien, il n'y a aucune accroche historique. Et que j'ai l'impression que tout ça est reconstitué par Fellini, y compris par exemple les bordels romains, y compris les insulae, c'est-à-dire les maisons de location romaine. Mais ce qui fait, me semble-t-il, le prix du Satyricon, c'est que pour un antiquisant comme moi, par exemple, on sait que ce n'est pas vrai. On sait très bien que archéologiquement, les insulas n'étaient pas comme ça. Mais on se dit que si on se trouvait dans la Rome antique du 1er siècle, on serait dans cette situation. C'est-à-dire qu'on se retrouverait dans des lieux semblables, tout en sachant qu'ils ne sont pas vrais. C'est un paradoxe et je crois que Fellini a réussi à retrouver une atmosphère, à recréer une atmosphère, ce qui montre bien d'ailleurs que ce cinéma sur la Rome antique, je crois que c'est peut-être le plus important à dire, ce cinéma sur la Rome antique, c'est un cinéma qui se nourrit de fantasmes.
Il n'y a pas un moyen de transport ou de circulation dans Rome que Fellini n'ait pas utilisé. Si on voit déjà le nombre de films qui commencent par une arrivée à Rome, soit une arrivée en train comme dans Ginger et Fred, ou l'épisode de l'arrivée qui est autobiographique du jeune homme dans Roma, que ce soit la fabuleuse arrivée en hélicoptère du Christ travailleur, les bras tendus et les bras écartés et tracté par un hélicoptère survolant la périphérie romaine.
Dans la Dolce Vita.
Dans la Dolce Vita, oui. On a toujours ces entrées dans Rome qui inaugurent les films. Alors Fellini filme Rome vue d'hélicoptère, Rome vue de grue de cinéma, Rome filme même le sous-sol de Rome avec cette... la superbe séquence des travaux du métro dans Roma, qui est une métaphore de toute de la conception fellinienne de la mémoire historique. C'est cette formidable séquence où, pendant les travaux de creusement du métro, le chantier est arrêté parce qu'on a découvert une villa romaine enfouie. On ouvre cette villa romaine où sont préservées de splendides fresques. Et le souffle de l'air vient détruire ces fresques. Donc c'est une mémoire qui est là, mais qui est en même temps très fragile, qui est prête un peu toujours à disparaître, à s'effondrer. C'est un peu l'image de Rome comme l'image de Naples qu'on peut avoir en voyant Main basse sur la ville, d'une ville en fusion dont tous les pans sont à un moment ou à un autre prêts à s'écrouler.
C'est une ville, oui, qui est tout le temps sur le point de s'effacer, c'est ça ?
S'effacer, oui. La preuve, c'est que... Enfin, une des preuves, c'est que Rome s'efface du cinéma de Fellini. Fellini consacre en 72-73, je crois, Roma à la ville de Rome. Et on le voit petit à petit, pour ses films successifs, s'éloigner de Rome. Et le meilleur exemple serait Ginger et Fred, où l'action se passe à Rome, mais on ne voit absolument pas Rome. L'ouverture du film, c'est de nouveau une arrivée en train à la gare de Termini à Rome, mais Rome ne sera représentée que par cette séquence de la gare. Gare cosmopolite, avec une foule de toutes les couleurs, ou bardée de publicité, avec ce gigantesque pied de cochon qui pend au plafond. Et de Rome, le spectateur n'aura que cette image d'entrée, puisque immédiatement après, tous les personnages sont embarqués en direction du studio de Fulvio Lombardone, si je me souviens bien, qui devient le centre du film et qui est ce studio perdu dans la banlieue romaine. Et de Rome, on ne voit très très brièvement que quelques plans de rue par les vitres du camion qui emporte les personnages. Donc Fellini, petit à petit, s'éloigne de Rome et présente une image de Rome qui est l'image d'une ville en pleine décomposition. C'est cette image de Rome comme un gigantesque terrain vague abandonné qu'on trouvait aussi chez le Pasolini de Mamma Roma ou dans d'autres films de Fellini. On retrouve des localisations un peu équivalentes au tout début de La Dolce Vita, quand le premier plan, quand on voit les deux hélicoptères de front qui arrivent en portant la statue du Christ, se déroule au-dessus d'un paysage où on voit à la fois, bon, disons, des HLM et un aqueduc. Et c'est à peu près le même type de paysage que celui dans lequel se déroule une bonne part de Mamma Roma de Pasolini. Donc, une sorte d'espace intermédiaire qui est un peu, là aussi, une métaphore de la désorganisation spatiale de Rome.
Ma dove andata?
È quella l'ascensore, sa.
Fellini se dégage lentement d'une tradition de la comédie italienne qui est bon les films de ville, les films de genre, les comédies napolitaines, on a la comédie romaine. Je crois qu'un bon exemple serait La Bella di Roma de Comencini des années 50, qui est l'exemple typique du film de la comédie romaine, c'est-à-dire qu'on est à Rome, Rome fournit un cadre qu'on détaille, dans lequel on se promène, qu'on parcourt. Deux personnages se parlent, forcément, derrière eux, on voit la coupole de Saint-Pierre. Disons qu'il y a un cahier des charges couleur locale à respecter dans tous ces films. Et les premiers films romains de Fellini jouent un peu cette carte de Rome comme cadre. Et c'est seulement un peu plus tard que Fellini se met à arpenter Rome de manière différente. Et le summum, bien sûr, c'est Rome. Mais
vous disiez qu'on voit toujours, c'est une figure imposée en quelque sorte, la coupole de Saint-Pierre. Alors, dans La Dolce Vita, Fellini, il prend un peu le contre-pied de ce cliché, c'est-à-dire on est dans la coupole. Anita Ekberg monte l'escalier qui mène tout à fait en haut de la coupole. Et d'en haut, on découvre la place Saint-Pierre, mais je ne sais pas comment il a réalisé ça techniquement, mais on a l'impression d'être devant un immense écran de cinéma.
Oui, tout à fait. Oui. Il y a un retournement de cette image attendue de Rome. Mais un autre bon exemple, toujours en parlant de La Belle de Rome, le film de Comencini, de ses parcours obligés, c'est toute la séquence d'ouverture montre des sortes d'hommes sandwich à vélo qui, pendant tout le générique, parcourt Rome et évidemment passe devant tous les, font le tour du Colisée, passe devant tous les monuments. On a de multiples exemples dans la comédie italienne de poursuites en Fiat Cinquecento qui fatalement finissent à un moment ou à un autre devant le Colisée. Et cette figure obligée, un peu ce cahier des charges de la couleur locale, Fellini le redétourne encore avec la scène finale de Rome, la séquence des motards qui envahissent et traversent Rome de nuit, effectivement en faisant le tour complet des attractions touristiques demandées. Cette séquence est assez bizarre parce que elle est pas, elle vient clore le film après une interview de Gore Vidal très très apocalyptique, enfin où l'écrivain américain déclare que finalement Rome est le seul et le meilleur endroit pour attendre la fin du monde. Et cette séquence vient clore le film qui était lui-même une juxtaposition, enfin une agglomération des divers parcours possibles dans Rome, que ce soit le parcours historique, le parcours de la mémoire ou les parcours géographiques. En fait, la Rome de Fellini est une Rome de studio, est une Rome reconstituée à Cinecittà. Par exemple, toute la longue scène, la longue séquence de l'embouteillage, qui est encore une de ses arrivées à Rome légendaire. Donc la longue séquence de l'embouteillage a été tournée en grande partie sur une portion de 500 mètres d'autoroute que Fellini a fait construire quelque part dans les studios de Cinecittà. Même chose pour la très longue séquence du repas toujours dans Rome, qui a été tournée dans une reconstitution de la rue qui est d'ailleurs une des premières adresses romaines de Fellini, et l'ensemble de cette rue a été reconstitué en studio, passage des tramways compris.
Modello numero 2, Tortorelli Maculé, cornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di aerazione. Tentation du purgatoire. È il mondo che deve seguire la Chiesa, non il contrario. Passiamo ai modelli sportivi. Au paradis, toujours plus vite.
Fellini s'adresse à Anna Magnani, qu'il traque comme ça avec sa caméra, avec les projecteurs, en lui disant tu es pour moi le visage de Rome, tu es Louvre, Vestale, enfin, beaucoup de poncifs, non ?
Cette intervention d'Anna Magnani comme incarnation de Rome a toute une histoire que Fellini raconte dans l'album qui a été publié sur Cinecittà. Et Fellini raconte comment, d'une part, il a réellement eu du mal à convaincre Anna Magnani d'apparaître dans le film, et évoque les multiples propositions qu'il lui avait faites. Alors la première était de la faire apparaître, je cite Fellini, « à ta fenêtre comme une icône, comme une impératrice de la nuit ». Et bon, la chose ne convainc pas Anna Magnani. Fellini lui repropose un tournage dans un restaurant. Je cite Fellini toujours, « La caméra entre dans un restaurant romain bondé et bruyant, parcourt un couloir jusqu'à une petite cour qui ressemble à un cloître, où tu t'assieds à table avec tes amis les plus chers, et, accompagné par la guitare, tu chantes doucement une chanson romaine. » Bon, même la Magnani refuse aussi. Troisième proposition, écrit Fellini, au milieu de la foule passe lentement une grande automobile noire, luisante, solennelle de cardinal, les gens s'écartent, se penchent pour regarder, dedans il y a toi avec tes chiens, tu réponds à la curiosité avec un long regard royal, Et bon, le Magnani lui répond non, ceci dit, c'est déjà mieux que les autres conneries. Et bon, finalement, Fellini lui propose ce qu'on a dans la version définitive du film. Le film est fini, la caméra te surprend dans la nuit sur ta porte. Je t'appelle, je te dis quelques phrases, que tu es le symbole de Rome, louve et vestale. Je te demande de dire quelque chose sur la ville, tu me réponds rudement et tu me fais la porte au nez. C'est seulement à ce moment-là que Anna Magnani a accepté de figurer dans le film.
Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città.
Che so io?
Una Roma vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra, buffonesca, potrei continuare fino a domattina.
Ma Federì, va a dormire, va.
Posso farti una domanda?
No, non mi fido, ciao. Buonanotte.
Rome au cinéma par Francesca Isidori et Christine Berlamont, avec Claude Aziza, Christian Marc Bosseno, Claudio Fava, Riccardo Freda, Jean Gilly et Ettore Scola. Mixage, Christian Prévost, Olivier Loridan.
Roma è città che fa davvero entusiasmare, chi è nato qua sicuro può se può vantare, su da Gianicolo che panorama puoi ammirare, nobile e che grandiosità trovi qua, l'amore alla genialità, l'arte che sorge dall'antica, l'obelischi, le fontane, Montecelio, Viminale, Campidoglio, Marco Aurelio, Foro Pinzo, Quirinale, entri dentro al Vaticano, trovi cose da non dire, Michelangelo, Bernini, Guido Reni, Raffaello, Cortiziano e Donatello, tutto il mondo c'ha da invidia. Boria non è, si Roma mia l'avante in me, sta gran città che il mondo deve dominare, che cielo splendido, che bel clima trovi qui, tiepida l'arietta poi senti, poi giura, le cose belle stanno qua, in altra Roma il mondo non c'è sta, Roma bella, sei la culla d'una grande civiltà. Del mondo sei una stella che nessuno può vantare, la Rodonna, il Coliseo, so tesori e rarità, ma che Londra, che Parigi, ma che Vienna, che Berlino, qui c'è il sole che è divino, Roma eterna ad Arsta. Il via qua giù se per me non se ne va più, c'è da magna qualunque sia specialità, ma più magnifico è quel vinetto che c'è qui, credi a me è un gusto da svenirsi, voi tu se godi quando te va giù, seguiti a bere non finisci più, li piselli romaneschi sempre freschi puoi magna, l'abbacchietto cotto al forno, o gli gnocchi e il giovedì, i carciofoli alla giudia, vittuccine alla romana, e romano e pascioccone sta tranquillo e se ne impippa tra un succo e sabato trippa, magna beve e allegro sta.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er janvier 1991. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.